Solers et Pleney ont tous deux évoqué l'enchevêtrement dans la pensée Mao Tse-tung de la logique chinoise traditionnelle et du marxisme-léninisme. Dans De la contradiction, l'essai philosophique le plus important de Mao, écrit dans la mouvance de la longue marche, cette intrication existe, cela vient d'être dit, il faut d'autre part rappeler qu'à une époque où en France le marxisme était vivant, ce texte était plutôt perçu par les uns comme trop descriptif et trop abstrait, et par les autres comme constituant un véritable bond en avant dans la théorie. Pour un philosophe aujourd'hui, ce texte a-t-il gardé son originalité ? Alain Badiou.
Mao Tse-tung est celui qui a le plus décisivement contribué à arracher la philosophie matérialiste dialectique à un statut académique, c'est-à-dire au statut d'une sorte d'appendice ou de commentaire du noyau dur des questions qui demeuraient naturellement les questions de la stratégie, de la tactique et de la politique. Il les a, pour ainsi dire, déplacés, excentrés par rapport à cette assignation, pour en faire véritablement un élément interne, un élément constamment présent de la pensée politique elle-même. Et la nécessité où s'est trouvé Mao Tse-tung, par exemple, de réélaborer, de retransformer les catégories de la dialectique, telles qu'elles fonctionnaient, disons, depuis les références canoniques de l'œuvre de Engels, en vérité, est étroitement liée à la nécessité pour lui de penser une situation historique extrêmement complexe, dont l'axe stratégique est la question de la guerre révolutionnaire. Et Mao Tse-tung a affaire, il ne faut jamais l'oublier, à un processus politique prolongé, qui n'est pas de caractère ramassé et insurrectionnel, comme l'a été la révolution de 17, et par conséquent une bonne partie de la pensée léniniste. Sa pensée n'est pas non plus directement articulée sur l'échéance de la prise du pouvoir comme échéance immédiate. Il s'agit de gérer un processus lent qui dégage son propre espace de libération, les zones libérées, et qui, à partir de là, joue ou jongle avec les circonstances selon des opportunités complexes. Évidemment, pour penser un processus de ce type, durable, cumulatif, ramifié, il fallait un guide philosophique d'une autre nature que ce qui était requis par la pensée simple de l'antagonisme, finalement, qui régissait la vision insurrectionnelle de la politique.
Oui, il n'y a pas la vision du grand soir.
En quelque sorte. C'est une des caractéristiques les plus importantes de la pensée de Mao Tse-tung, pas seulement dans l'ordre philosophique, qu'un rapport à la fonction du temps très différent de ce qui a précédé. Mao n'hésite pas, fût-ce à titre de boutade, à dire que les choses dureront 1000 ans, que le communisme est très lointain, ou même vers la fin de sa vie, qu'on a encore très peu changé les choses, que le monde nouveau est encore très semblable au monde ancien, et ceci dans une optique qui n'est pas vraiment millénariste, mais qui est une optique de patience concentrée chez cet homme dont on sait qu'il était par ailleurs capable de très grandes impatiences, mais une sorte de patience concentrée qui cherche à saisir la particularité de l'instant dans un long parcours, dans le devenir d'un long parcours. Et je crois que sa philosophie est très marquée de cette conception étendue et en un certain sens assez sereine du temps, de la longue durée. Il faut comprendre la pensée de Mao dans sa vocation intervenante. Et à ce moment-là, on s'aperçoit qu'elle embrasse la complexité même de la situation dans laquelle elle intervient. C'est une figure de la politique agissante et non pas une abstraction logique. Et si l'on veut lui rendre justice, il faut l'interroger de ce point de vue, c'est-à-dire se demander quel usage politico-historique est-il concevable d'imaginer concernant ces schémas de pensée et cette logique dialectique, déjà plus complexe cependant que celle que Engels proposait. Et c'est une des caractéristiques les plus importantes de la pensée de Mao Tse-tung. Je crois que c'est aussi une de celles qui impose l'idée que ce n'est pas une philosophia perennis, c'est-à-dire une architecture philosophique comme un monument qu'on pourrait visiter, réinterpréter périodiquement dans le calme des académies. Il a dit lui-même d'ailleurs qu'il fallait sortir la philosophie de la salle de conférence et la projeter dans la rue, dans le monde, dans l'espace. Et il faut se mettre à cette école-là. Ma conviction est que la pensée de Mao Tse-tung, sa philosophie, ne sont pas des monuments qu'on peut visiter à tout instant. C'est une pensée dont l'activité, dont le sens n'est véritablement perceptible que dans certaines occurrences de l'action, de la mobilisation des masses, de l'intervention historique. Et je dirais, ce qui peut paraître paradoxal, que c'est une philosophie qui peut-être n'existe pas constamment.
C'est-à-dire qu'il y aurait donc des moments où l'histoire ne parle pas.
Vous savez, on a soutenu Merleau-Ponty, par exemple, que l'histoire ne parlait jamais. Merleau-Ponty disait « l'histoire n'avoue jamais ». Mao Zedong ne pense certainement pas que l'histoire n'avoue jamais, mais il penserait volontiers qu'elle n'avoue pas toujours. Il y a chez lui cette pensée très forte du caractère élucidateur du trouble. Il dit quelque part, après un trouble, après deux troubles, on commence à y voir plus clair. Cette dialectique du trouble et du clair est tout à fait significative. Mao Zedong, je crois, serait d'accord pour dire que la philosophie ne se déploie véritablement que quand elle est en état d'embrasser un monde troublé et de faire clarté dans ce monde troublé. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque le monde est stagnant ou incertain ou d'un calme suspect, la philosophie de Mao Zedong s'absente. Mais pensons bien que cette référence, parmi d'autres d'ailleurs, cette référence parmi d'autres, peut parfaitement revenir avec le trouble, justement. Avec le trouble et avec ce qui l'accompagne, quelquefois, c'est-à-dire la volonté agissante de clarté.